Alors, dans un instant, on va recevoir Éric Lantier. Éric Lantier, qui est coach spécialisé en intelligence genrée. Est-ce qu'il est déjà là avec nous? Bon, on va attendre d'une minute à l'autre. Éric Lantier. Éric Lantier est là. Alors, bon après-midi, mon cher Éric Lantier.
Bon après-midi, M. Pierre.
Ça va bien, Éric Lantier. Le week-end a été un week-end pourri, mais on s'est arrangé quand même d'une certaine manière puisqu'on l'a traversé le week-end. On est aujourd'hui lundi, 1er novembre, Éric.
Absolument. Ça a été un week-end qui a passé comme une flèche. J'étais très occupé. Mais je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui.
Merci. Alors aujourd'hui, Éric, coach spécialisé en intelligence genrée, on parle de quoi là, mon cher?
Ouais, on est toujours sur notre série sur l'éducation des garçons et la question que j'aimerais répondre, c'est en quoi le fossé générationnel entre les pères et les garçons affecte-t-il les garçons?
Oh.
Oui, parce que on ne partage pas les mêmes valeurs que nos enfants. Par exemple, depuis 50 ans, il y a un changement qui s'est opéré. Il y a une cinquantaine d'années, on pouvait résumer notre génération en disant « j'existe, donc je sers ».
Maintenant, aujourd'hui... « J'existe, donc je... » »«
Sers, servir. »«
Je sers, OK. »
Oui, c'est cela. Mais aujourd'hui, c'est « j'existe, donc je mérite. »
OK.
Oui, je mérite le bonheur, je mérite que ça me fasse du bien, je mérite d'avoir le meilleur des deux mondes. Alors, évidemment, je généralise, M. Pierre, mais cette généralisation, je la mentionne pour démontrer à nos auditeurs qu'il y a quand même un changement, un clivage entre la génération qu'on appelle des boomers et celle qui a suivi la génération X, dont je fais partie, et la génération des milléniaux. Alors, ceux qui sont nés, par exemple, dans les années 90. Alors, ce qui arrive, c'est que le fossé générationnel qui est engendré par des valeurs différentes, par une vision du monde différente, évidemment, crée des problèmes, crée une problématique chez les garçons. Premièrement, ça nuit au renforcement de leur identité parce que beaucoup de garçons ne s'identifient pas à leur père comme nous, on pouvait le faire étant plus jeunes. Puisque le fossé, d'une part, était moins grand et la présence du père était plus significative, même si émotionnellement, il était peut-être moins disponible. Quand le père rentrait dans la maison, oh là là, ça changeait toute l'atmosphère de la maison. Aujourd'hui, c'est différent. Si le père, par exemple, est absent, si le père n'a pas les mêmes intérêts, s'il ne partage pas les mêmes valeurs, ça l'a pas. Si le père est très impliqué dans la vie du garçon, mais qu'il n'y a pas de connexion émotionnelle, alors à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a un fossé qui se crée. Alors ça, c'est l'analyse en quelques secondes. Mais, M. Pierre, je veux quand même vous rassurer, il y a de l'espoir.
Il y a de l'espoir.
Oui, il y a de l'espoir.
Mais la première démarche qui consiste à corriger une situation devrait venir des parents, pas seulement du père, aujourd'hui la mère s'y met aussi, pour faire en sorte que la progéniture ait la meilleure vie possible. Combien de fois on voit, parce que de plus en plus je dis ça là, autrefois la famille québécoise composée du père, de la mère et des enfants, ben, le père était au travail et la mère était à la maison. Mm-hmm. Aujourd'hui, pour satisfaire les besoins matériels de ces enfants-là et leur donner une vie de château, presque, n'est-ce pas? Mm-hmm. Parce qu'ils ont tout, tout pour être heureux, n'est-ce pas?
Oui.
Eh ben, la mère se met aussi sur le marché du travail. Alors, oui. Tout ça pour, dans l'idée de donner, peut-être se faire pardonner de quelques affaires, là, je ne sais pas, mais donner la meilleure vie possible. Alors, c'est normal, tout à fait normal que le jeune, aujourd'hui, réclame ce qu'il y a de mieux. Et voilà. S'attend à ce que la société lui donne tout cuit dans le bec. Et tant qu'à être, pourquoi ne pas avaler pour lui? C'est normal, c'est notre fait. Bon, il est tout aussi normal que l'on ne doit pas, l'on ne peut pas reproduire les mêmes générations et on veut toujours améliorer, hein, la génération qui va nous suivre. On doit toujours préparer quelque chose faisant en sorte que l'atterrissage soit un petit peu plus, se fasse un petit peu plus en douceur. Mm-hmm. Par rapport à ce qu'on a connu. Ça, on peut comprendre, mais il faut pas corriger une erreur par une autre erreur, pas vrai?
Ah, ça, je suis bien d'accord avec vous. Et vous touchez un point important. Le fait que un grand nombre de mamans sont sur le marché du travail, eh bien, qu'est-ce que ça fait? C'est que, justement, le rôle du père n'est plus aussi défini qu'il l'était il y a 50 ans. Parce qu'il y a 50 ans, être père, ça veut dire celui qui amène le pain sur la table. C'est lui qui travaille pour la nourriture, pour la dimension matérielle de la famille. Maintenant, puisque les sources de revenus viennent des deux parents, que ce soit par le salaire du père ou par, si on veut, une genre d'allocation familiale, mais quand c'est pas allocation familiale, mais comment on appelle ça, M. Pierre, là, quand un papa n'habite plus à la maison, la pension alimentaire.
La pension alimentaire, oui.
Ouais, c'est ça. Soit via le salaire direct ou la pension alimentaire, eh bien, il reste que le rôle du père en tant que pourvoyeur n'est pas aussi défini qu'il l'était.
Mais en tout cas, Eric, il faut comprendre que à ce moment-là, le pourvoyeur n'était que pourvoyeur et mm-hmm. pourvoyeur autoritaire. Excusez,
oui,
là, parce que c'est celui-là, mais je vais le dire à papa, et puis quand papa va arriver, et puis papa va faire le nécessaire pour que papa joue son rôle de papa, et le papa n'avait que les deux cornes, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Ah ben, quand même, là, on peut jouer un rôle plus humain aussi dans le film, pas vrai, de temps en temps? Hein?
Tout à fait.
Bon, le père a comment amélioré son image auprès de ses enfants, ce qui est une bonne chose. Mais maintenant que nous gâtions nos enfants au point où je parle d'une communauté que je connais bien, Eric, ces enfants qui travaillent quand ils veulent travailler, ils n'ont pas à donner ne serait-ce qu'un symboliquement une participation de la maison à 16-17 ans, hein, n'est-ce pas? Ils peuvent gaspiller et puis bon, voilà. Moi, je voudrais bien que qu'ils utilisent cet argent-là, qu'ils fassent de bons placements. Dans ce cas-là, ils n'ont pas besoin de payer de quoi que ce soit. Ils mangent aux frais de papa et maman, c'est correct. Ils font tout l'électricité aux frais. Mais si c'est pour gaspiller le plus d'argent qu'ils peuvent avoir, mon Dieu, il faut reconnaître que c'est un abus qu'on fait et qu'on ne fait absolument rien pour aider l'enfant dans sa préparation à devenir un adulte responsable dans une société comme la nôtre.
Tout à fait. Et c'est pour ça que le père a un rôle à jouer pour renforcer d'une part l'identité de son garçon, puis d'un garçon à l'autre, l'identité est différente parce qu'on est tous différents. Le père a un rôle à jouer. Vous savez, à l'époque, il y a quelques années, Monsieur Corneau avait publié un livre, hein, Père manquant, fils manqué. Donc, le rôle du père, c'est un rôle très important parce que c'est celui des deux géniteurs qui n'a pas porté l'enfant. Donc, il est le seul qui était au moment de la conception, une fois qu'il a été conçu, là, après qu'il a été conçu, n'était pas connecté physiquement avec l'enfant. C'est la mère qui était connectée parce qu'elle le portait dans son ventre.
Mm-hmm.
Et donc, La relation du père, c'est de détacher l'enfant de sa mère pour en faire un adulte à part entière. Et lorsqu'il y a un fossé générationnel qui vient justement empêcher ce sain développement-là, le rôle du père, c'est de trouver des stratégies pour connecter avec ce garçon et renforcer son identité. Et j'ai quelques pistes pour ça, je vais les mentionner rapidement parce que je vois que le temps file. Mais ce qui est important pour reconnecter ou connecter avec son garçon, son fils, c'est de parler de ce qui nous faisait vibrer avant d'avoir connu sa maman. Qu'est-ce qui me faisait vibrer quand j'étais un adolescent? Qu'est-ce qui m'amenait de l'éclat dans les yeux, qui me faisait rire? Par exemple, moi, j'ai invité mon fils il y a quelques années à faire la tournée de mon univers quand j'étais enfant adolescent. Mon école primaire, mon école secondaire, où est-ce que j'ai habité. Alors, on a fait le tour de ces lieux-là pour qu'il puisse se connecter avec mon univers avant qu'il lui existe. Parce que moi, j'ai vécu une vie avant qu'il existe, mais il la connaît pas, cette vie-là. Et ça, ça renforce et ça réduit ce fossé-là parce que il y a un sentiment d'appartenance qui grandit, qui se crée.
Moi, je dis, Eric, qu'on devrait reprendre cette émission la semaine prochaine, Eric. C'est trop important. C'est trop important.
Absolument.
Ouais, c'est trop important parce que il y a des recettes qu'il était en train de nous donner, mais on doit faire la pause, Eric. La semaine prochaine, on va commencer la chronique au beau milieu. Après avoir mis la table, on va rentrer dans ces petits trucs pour permettre à un père de se connecter ou se reconnecter avec son fils. Parce qu'il y a de ces situations-là où la connexion semble être totalement impossible. Surtout lorsque la mère s'y met, hein, dans le mauvais sens. Des fois, je me dis que le temps va bien arranger les choses lorsqu'il y a une rupture. Plus ça s'étire des fois, plus c'est irréconciliable. Et ça existe bel et bien. Merci. Merci beaucoup, Eric Lantier, coach spécialisé en intelligence genrée.
Merci. Ça fait un plaisir. Au revoir.
Merci. Au revoir. On fait la pause commerciale. De l'autre côté, on parle à Will Prosper, candidat à la mairie de Montréal-Nord pour Projet Montréal.